Merci Raph et bonsoir à tous. Bonsoir en particulier à tous ceux que je ne connais pas véritablement, qui fréquentent surtout le culte du soir. C'est un plaisir d'être tous avec vous ce soir. Lorsque j'étais jeune, il y a longtemps de cela, un peu plus de 40 ans, j'ai travaillé dans des urgences hospitalières avec une collègue qui avait une certaine particularité qui a été assez vite remarquée. On a travaillé 6 mois ensemble, c'est que lorsqu'elle avait examiné un patient qui arrivait là pour des urgences, donc avec un certain degré d'angoisse, elle se plantait devant le lit du malade comme ceci, avec un air dubitatif, ne disait pas un mot et partait. Alors vous imaginez que ça soulevait un certain nombre de questions de la part de ces patients qui étaient là. Et derrière, le personnel était obligé de passer pour expliquer, pour rassurer, etc. Et j'ai appris là qu'il y a une chose que nous ne supportons pas particulièrement, c'est le doute. Le doute à propos de notre propre personne, en l'occurrence lorsqu'on est malade, lorsqu'on attend un diagnostic, et souvent le simple fait de dire de quoi il s'agit, de dire ce que l'on va faire et ce que l'on envisage comme traitement, ça rassure et les gens vont mieux. Et vraiment, le doute est quelque chose d'insupportable à tous les niveaux de notre vie. Il y a au mois de juillet, j'avais apporté une prédication sur le doute et je ne me doutais pas, c'est le cas de le dire, que j'aurais à en reparler aujourd'hui dans le texte que nous allons aborder ici, qui se situe dans une lignée d'un certain nombre de prédications sur la deuxième épître de Paul à Timothée. Paul a écrit une lettre, épître ça veut dire simplement lettre, à un jeune compagnon de service. Et dans cette lettre, il lui donne un certain nombre de conseils dans une situation particulière que je vais résumer dans quelques instants. Pendant un certain nombre d'années, j'ai eu un ministère pastoral dans cette église et je me suis rendu compte que un des premiers doutes qui assaillait les jeunes convertis, et en particulier les jeunes baptisés, touchait au doute sur leur salut. À l'occasion d'un péché, ils imaginaient qu'une fois sauvés, une fois chrétiens, ils ne pécheraient plus. Suite à une défaillance dans une épreuve, suite à un témoignage qu'il aurait fallu rendre et qu'il n'avait pas rendu, ou suite même parfois à la lecture d'un passage de la parole de Dieu. Et il est vrai qu'il y a quelques passages très épars dans la Bible qui soulèvent des questions à ce sujet-là lorsqu'on les sort complètement de leur contexte. Dans le texte que nous allons lire ce soir, il y a un verset en particulier qui prête à ces questions et qui est perturbant, qui dit que si nous renions notre Seigneur, lui aussi nous reniera. Il y a de quoi s'interroger, parce que qui d'entre nous peut dire qu'il n'a jamais renié le Seigneur à un moment donné, reniement de fidélité ou quoi que ce soit, on va en reparler un petit peu plus loin. Timothée, dont nous parlons ici, est quelqu'un qui, au travers, on le voit en filigrane derrière toute cette épître, qui probablement est saisi par le doute et qui, dans la mission, la vocation qu'il a reçue de servir l'église d'Éphèse, a connu des défaites, a connu des oppositions, a vu des hérésies devant lui. Il a eu à en traiter, il a eu à faire face, il a eu des désertions dans cette église. Et il est assailli par des doutes et un découragement manifestement profond, au point que l'apôtre Paul est obligé de lui écrire cette lettre pour l'encourager. Et c'est précisément l'objet de cette lettre. Paul va faire appel, dans les premiers textes que nous avons déjà vus les dimanches précédents, ils sont enregistrés, ils sont sur le site de l'Église, vous pouvez vous y référer si vous voulez, a fait appel à un certain nombre de références qui étaient surtout des références humaines, mais pas que, hein, mais des références humaines. Paul a fait état du fait que Timothée est son fils spirituel, que c'est lui qui l'a amené à la foi, qu'il prie pour lui, qu'il l'entoure de tout son amour dans ses difficultés. Il a fait référence aussi aux ascendances du côté maternel de Timothée, où sa mère et sa grand-mère avaient fait preuve d'une fidélité particulière pour le Seigneur. L'apôtre Paul fait état aussi de sa propre persévérance à lui, parce qu'au moment où il écrit cette lettre, il est en prison. Et malgré cela, il n'est pas abattu, il n'est pas au bout, même s'il est attristé de cette situation, même s'il sait que ce sont peut-être ses derniers jours, derniers mois qu'il vit, parce qu'il va perdre la vie pour la cause de Christ dans cette prison. L'apôtre Paul fait état, et ça a été le sujet d'une autre prédication, d'un certain nombre d'exemples et de contre-exemples de fidélité particulière au Seigneur et à son ministère. Il a parlé de deux personnes qui l'ont complètement abandonné, et il a parlé d'une personne qui a mis sa vie en jeu pour lui porter secours. Tous ces éléments sont donnés à Timothée pour lui dire « Regarde, il y a matière à être encouragé, il y a matière à persévérer. » Et il lui a donné un certain nombre de modèles de persévérance dans la société. C'était la prédication de Raphaël dimanche dernier. Il a parlé du soldat, il a parlé de l'athlète, il a parlé du laboureur, qui chacun d'eux, dans leur domaine, ont besoin de faire preuve de persévérance pour ensuite recueillir les fruits, remporter la victoire, goûter à ce pourquoi ils ont été enrôlés, pour le soldat en particulier. Et maintenant, l'apôtre Paul, dans cette lettre, va faire référence, une référence suprême, à Jésus-Christ. Et on l'a déjà abordé dimanche dernier au début du chapitre 2, lorsque Raph a développé cette idée que c'est dans la grâce qui est en Jésus-Christ que Timothée doit se fortifier, et par-delà Timothée que nous aussi nous devons nous fortifier. Voilà un petit résumé de ce que nous avons vu ces derniers temps, et nous abordons le texte pour aujourd'hui, qui est dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 2, les versets 8 à 13. Je suis désolé, je n'ai pas repéré les pages en question, comme Raph l'a fait tout à l'heure. 784. La page 784, dans les Bibles que vous avez devant vos bancs, et pour tous les autres qui savent rechercher sur la base d'une référence, de Timothée, chapitre 2, les versets 8 à 13. Je vais les lire dans le texte qui est affiché ici, qui est la version à la colombe, que j'ai trouvé peut-être être la plus fidèle à l'original de la parole de Dieu. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ces quelques versets vont nous occuper pendant quelques minutes, parce qu'il y a une grande richesse dans ce texte. On va le parcourir en suivant le texte. La première exhortation de l'apôtre Paul à Timothée, après avoir rappelé toutes ces références qui sont de nature à l'encourager dans la persévérance et la fidélité, dans les épreuves, le découragement, le doute peut-être qu'il connaît, la référence suprême vers laquelle il l'amène à tourner les yeux, « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et l'apôtre Paul, en quelques lignes, en quelques mots même, simplement, fait ici un raccourci de l'évangile. Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile. L'apôtre Paul, en une phrase, va de Noël à Pâques, va du tombeau qui est vide, plutôt de Pâques à Noël, pardon, dans ce sens-là. Il va du tombeau qui est vide maintenant parce que Christ est ressuscité, à la crèche qui est occupée par la descendance de David. On a là un raccourci de tout l'évangile que l'apôtre Paul s'approprie en disant « c'est mon évangile, maintenant il est devenu le mien, j'y crois profondément, il est celui qui anime toute ma vie maintenant, alors que j'arrive au bout de mon ministère ». Était-il nécessaire de lui rappeler à Timothée qu'il faut se souvenir de Jésus-Christ ? De par mon expérience, et je pense que d'autres peuvent peut-être en témoigner, lorsqu'on a la charge d'un ministère, de l'Église en particulier, d'une Église qui donne des soucis, entre autres comme c'était le cas de Timothée, on a tendance à avoir la tête dans le guidon, de ne voir que les objectifs, de se dire, il faut que je ramène celui-ci dans la foi, il faut que je l'amène à la repentance, il faut que je sorte celui-ci du péché dans lequel il s'est engagé ou des erreurs doctrinales dans lesquelles il est engagé. Il faut que je le ramène à la communion alors qu'il est désuni, qu'il est en dispute avec les autres dans l'Église, etc. On a la tête dans le guidon au point que parfois on oublie ce pourquoi l'Église existe et ce pour qui elle existe, à savoir Jésus-Christ. Et il a besoin d'être rappelé à cette priorité de tourner les regards vers Jésus-Christ. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Ici, l'apôtre Paul fait un appel à deux enracinements, si je peux dire, pour ne pas employer des mots plus théologiques, de notre Seigneur Jésus-Christ. Son enracinement divin d'abord, ressuscité d'entre les morts, et son enracinement humain, qui sont l'un et l'autre totalement indissociables. Et pourquoi commence-t-il par l'enracinement divin ? Parce qu'il est le symbole, il est l'expression de la victoire finale de Jésus-Christ. Jésus-Christ a eu un parcours sur la terre, il a été crucifié, mais il a remporté la victoire. Et d'abord et avant tout, l'apôtre Paul veut que Timothée tourne les regards vers le Christ ressuscité, qui a été victorieux, celui qui est l'auteur de son salut, mais qui est l'auteur victorieux de son salut. Mais sans oublier l'autre aspect de la personne de Jésus-Christ, son enracinement humain, de la descendance de David, celui qui est né comme un bébé, celui qui a grandi, celui qui a eu tout un parcours. Et je trouve que parfois, il est bon que nous soyons rappelés aussi à l'ordre par rapport à ça. J'ai le sentiment que nous prêchons souvent sur Jésus-Christ, bien entendu. Nous prêchons sur son œuvre rédemptrice, sur le salut qu'il nous accorde, sur sa mort, sa résurrection, le ministère que Christ assure maintenant pour chacun de ses enfants. Mais nous oublions parfois l'aspect humain de Jésus-Christ, où je trouve en tout cas que nous le passons peut-être trop sous silence. Et personnellement, je suis de plus en plus admiratif de celui, de l'homme Christ qu'il a été. Il a parcouru la terre comme nous l'avons parcouru. L'Écriture nous dit qu'il a connu toute la gamme des épreuves que nous pouvons connaître. Il les a toutes connues. Et dans toutes ces épreuves, il a fait la démonstration de ce que l'homme parfait doit être. Il est un modèle, véritablement, de ce point de vue. Un modèle dans ses relations avec les autres, dans sa façon de s'exprimer, dans l'autorité qu'il a exercée. Un modèle dans le service qu'il a manifesté, dans l'humilité qu'il a manifestée. Et il y a matière là, que ce soit lorsque nous tournons les regards vers sa victoire finale, sa résurrection, mais aussi son parcours humain sur cette terre, il y a matière à ce que vraiment cela vaille la peine de nous souvenir de Jésus-Christ et que nous puissions être édifiés. Parce que ce qui a été la marque de Christ, qui a subi le renoncement, il a renoncé à sa nature céleste. On ne va pas lire dans Philippiens les expressions qui sont employé, il a renoncé à sa gloire céleste pour venir sur la terre endosser la peau d'un homme. Il a été rejeté, rejeté par sa famille, rejeté par son peuple, rejeté par la société, rejeté et abandonné même par ses disciples. Et il est mort sur la croix. Et dans tout ce parcours, qui est sans commune mesure avec les difficultés que Timothée peut bien connaître dans l'église d'Éphèse, ou celles que nous pouvons connaître dans notre vie sur cette terre, parce que nous sommes tous les uns et les autres dans un parcours terrestre, nous ne sommes pas des déracinés. Toutes ces souffrances ne sont rien à côté de celles que Christ a connues. Et dans toutes ces souffrances, Christ a persévéré dans l'obéissance, dans la fidélité à son Père. Et de ce point de vue, c'est un encouragement déjà très fort que de nous souvenir de Jésus-Christ pour nous aider à aller nous-mêmes de l'avant, à persévérer, à rester fidèles au Seigneur. Le deuxième élément qui est ici, c'est que Jésus-Christ a obtenu sa résurrection pour prix de son obéissance et de sa persévérance. Il faut que je vienne malgré tout à ce texte de Philippiens où l'apôtre Paul lui-même dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Et ce vrai homme, nous sommes appelés à l'admirer, à nous souvenir de lui. Il s'est humilié lui-même, se montrant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. La résurrection de Christ est le résultat aussi de sa vie de persévérance et d'obéissance jusqu'au bout. et sa glorification également est le résultat de cette persévérance. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, et il nous dit à nous aussi, persévérez. Regardez Jésus-Christ, il a persévéré, il a été fidèle et obéissant jusqu'à la mort, et il a eu pour prix la victoire finale, et c'est vers cela que vous devez regarder. Deuxième élément ici, que l'apôtre Paul va évoquer, la parole de Dieu n'est pas liée. C'est le deuxième élément qu'il plante ici pour encourager Timothée à sortir du doute et du découragement et à persévérer. Une parole de Dieu que rien n'a fait taire. Jésus-Christ, l'Écriture nous dit qu'il était la parole même de Dieu. Le tombeau ne l'a pas contenu, ne l'a pas lié cette parole. Et à sa suite, ses disciples ont prêché. Ils ont été persécutés, on a essayé de leur mettre des bâtons dans les roues pour la prédication de cette parole. Et depuis 2000 ans, Satan, comme les hommes incrédules, ne cesse de vouloir décrédibiliser l'Écriture. Et depuis 2000 ans, elle ne cesse de progresser cette parole et d'être diffusée de plus en plus et de gagner des vies à Christ et de transformer des vies plus que jamais. Et l'apôtre Paul, pour revenir simplement un peu en arrière ici, il est en prison. Mais il dit la parole de Dieu, avec mon emprisonnement, elle n'a pas été enfermée dans les murs. Elle n'a pas été enfermée dans les murs. Parce que cette parole, elle est porteuse en elle-même d'une puissance de vie. Et l'apôtre Paul est en train ici de planter deux éléments. En disant cette parole, je t'ai chargé, Timothée, de la porter à d'autres. On l'a vu avec Raph dimanche dernier, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à d'autres. Et cette parole, elle court depuis des siècles. Parce qu'elle est transmise à d'autres, et en vertu de cela, elle continue à être agissante, elle n'est pas enfermée derrière les murs, parce que dès qu'on tue un porteur de parole dans la persécution, et encore aujourd'hui on en tue, il y en a un autre qui se lève pour la porter. C'est quelque chose d'extraordinaire, elle est puissante, cette parole de Dieu. Et le deuxième élément, c'est que Timothée va être tout au long de cet épître exhorté à porter cette parole avec fidélité, parce que justement elle n'est pas liée, qu'elle est puissante. Elle mérite la prédication, elle mérite la fidélité, elle mérite d'être utilisée pour enseigner l'Église. Dans le chapitre 2, le verset 15, dans le chapitre 3, le verset 16, et l'apôtre Paul va terminer son épître en disant « Fais l'œuvre d'évangéliste » et il va lui dire « Prêche la parole ». Prêche la parole, encore un impératif ici qui tourne autour de la parole, parce que cette parole, elle n'est pas liée. Et parce qu'il y a une parole que rien ne lie, ça vaut la persévérance également. Et parce que nous aimons la parole aussi de Dieu, nous pouvons aussi, dans des circonstances qui sont analogues à celles de Timothée, d'épreuves, de découragement, de doutes, nous référer à cette parole, parce qu'elle porte en elle-même la puissance de la destruction du doute, de la conviction. Elle a la puissance de forger notre certitude et notre foi, plus que toute autre chose. Troisième élément, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. On peut trouver vraiment très paradoxal que l'apôtre Paul, alors qu'il est muré dans la prison de Rome, proche de sa mort, il garde la préoccupation des élus. C'est quoi les élus ? Peut-être c'est une notion qui pour vous est curieuse. La Bible nous dit que Dieu, dans sa souveraineté, choisit certaines personnes pour le salut. Seul Dieu, lui, les connaît. Vous ne pouvez pas dire vous-même, « Ah ben non, je ne suis pas touché par le salut parce que je ne suis pas un élu. » Non, seul Dieu les connaît. Si nous venons à Christ, en tout cas, nous pouvons avoir la certitude que c'est que nous étions élus. Ça, c'est certain. Mais l'apôtre Paul garde cette préoccupation des élus, c'est-à-dire de tous ceux que Dieu s'est choisis, ceux qui sont déjà venus à Christ, et je crois que ça englobe le tout ici, comme ceux qui sont élus, mais que la parole de Dieu, qui est si puissante dont il vient de parler, va devoir aller chercher pour les convaincre aussi. Et parce qu'ils sont choisis de Dieu, cette parole trouvera un terrain fertile, va pouvoir impacter leur cœur et transformer leur vie de façon à ce que ils deviennent des enfants de Dieu vraiment et que cet accès à Christ s'achève et se poursuive toute une vie dans la perfection. Parce que quel est le but ? Afin qu'ils obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu de la préoccupation de Paul pour les élus. c'est le salut de toutes ces personnes. Et il a à cœur ce salut. Et il nous faut savoir, chacun de nous qui sommes ici ce soir, c'est que c'est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul qu'il y a le salut. Parce qu'il est le seul à avoir été de nature divine et humaine en même temps, et il est le seul à être mort sur la croix, à être ressuscité. Aucun autre fondateur de quelque autre religion ne peut se targuer de cela. Il est le seul à avoir démontré dans sa vie un amour, une sagesse, une vérité, une préoccupation de service pour les autres, comme personne ne l'a montré. Il y a eu de grands hommes sur cette terre. Il y a eu de grands penseurs, des philosophes, etc. Il y a eu des hommes admirables, mais aucun n'a atteint la stature de Jésus-Christ qui, mis dans le tombeau, est ressuscité au troisième jour. Et tout l'Évangile nous en donne la preuve qu'il est sorti vivant de ce tombeau par la puissance de Dieu. Le salut en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Et ce texte ici, cette préoccupation des élus, elle a le but d'encourager Timothée à ce que l'apôtre Paul va lui dire un peu plus loin, fais l'œuvre d'évangéliste, c'est-à-dire par la prédication de la parole, va à la pêche de ces élus en quelque sorte, qui sont en attente et qui sont en besoin de cette vérité. Et cela nous encourage aussi à ce que par notre témoignage, notre prédication de la parole, des gens qui ont été choisis de Dieu et qui ne le savent pas même, que seul Dieu connaît, puisse rejoindre le salut en Jésus-Christ et la gloire éternelle. On va un peu plus loin sur le texte qui suit. On a là quatre vérités qui vont nous être affirmées dans ces versets 11 à 13. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. J'évoquais ce médecin qui, devant les urgences, laissait les gens perplexes sur leur situation et qui avait besoin que derrière passe quelqu'un pour leur donner une parole certaine et les rassurer. Timothée, dans l'état où il était là, tel que nous le présente cette lettre, avait besoin d'une parole certaine et non pas des paroles qui laissent place au doute. Et c'est curieux de voir que, comme je le disais en introduction, un des membres des quelques versets qui vont suivre est de nature souvent à perturber pas mal certains jeunes chrétiens parce qu'ils le sortent complètement de ce contexte. L'apôtre Paul est ici en train, au contraire, de dire une parole certaine qui met fin au doute, qui met fin au découragement aussi. Et nous avons tous besoin de ces paroles certaines qui viennent de la parole de Dieu. On ne peut pas rester sur des incertitudes, des peut-être, peut-être serez-vous sauvés. Si vous faites le bien pendant toute votre vie, peut-être Dieu sera bon avec vous, vous accordera la vie éternelle, comme il est prêché, par exemple, dans le catholicisme. Non, la parole de Dieu nous dit que, et nous abordons cette parole certaine ici, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Mais je veux auparavant dire quelques mots sur la forme particulière de ces quelques versets qui vont suivre. La plupart des interprètes de la parole de Dieu pensent qu'il s'agit là, à cause de cette structure, d'un poème ou d'un hymne, d'un cantique qui était chanté dans l'Église primitive et qui était connu. Et l'apôtre Paul fait référence à ce texte connu simplement à cause de la structure. Vous avez vu, c'est une structure en parallèle, si, cela, c'est très parallèle. Et ça correspond assez aux critères de la poésie de l'époque. Bon, peu importe. Toujours est-il qu'il ne faut pas nous attendre à ce que, dans ces quatre lignes que nous avons ici, nous ayons une présentation complète de la théologie du salut telle que l'apôtre Paul la présente dans l'ensemble de ses épîtres. Et il faut nous référer au reste de l'enseignement de la parole de Dieu pour bien comprendre ce qui est dit ici. Et c'est justement le problème de ceux qui, partant sur simplement un de ces membres de phrase, développent toute une gamme d'incertitudes et de doutes à propos de leur salut. Parce que qu'est-ce que l'apôtre Paul développe par ailleurs dans ses épîtres? Je vais le rappeler très vite. À savoir que ce choix souverain de Dieu, l'élection, Dieu le fait et organise tout et met tout en place pour qu'une personne venant à lui soit scellée par le Saint-Esprit, soit justifiée, soit adoptée par lui comme un nouveau père, soit lavée de ses péchés, soit transformée en un héritier de la cité céleste, que cette personne soit transformé dans sa sainteté qui va être progressive tout au cours de sa vie et que Dieu amènera jusqu'au bout, avec l'étape finale que l'Écriture appelle la glorification, c'est-à-dire de connaître la gloire éternelle. Tout cela dans les épîtres d'Éphésiens, dans Romains au chapitre 8, les références sont ici, vous les trouverez sur le site si vous voulez vous y référer, nous est montré, Dieu enclenche à partir du moment où il nous choisit pour lui appartenir, tout un processus qui nous amène à lui et qui ensuite va complètement parachever le salut au sens global du terme qu'il veut accomplir dans nos vies. L'apôtre Paul ne le détaille pas ici, bien entendu. L'apôtre Paul décrit que notre salut ne dépend aucunement de nos œuvres et, entre autres choses, ne dépend pas de notre persévérance, nous allons le voir ici aussi. Notre salut ne dépend que de la grâce de Dieu. Parce qu'il nous a fait grâce, qu'il nous a choisis, et parce que Christ a tout payé pour nous, nous sommes sauvés et nous le sommes définitivement, parce que l'Écriture nous dit aussi que Jésus n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Aucune personne ne les ravira de sa main. Rien, pas même la mort, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ, dans Romains au chapitre 8. L'Écriture dit aussi que le Saint-Esprit, c'est l'apôtre Paul là encore qui le dit, que le Saint-Esprit qui nous donne en nous et qui transforme notre vie, qui manifeste des fruits, est le garant de notre salut et que nous pouvons, si nous savons que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans notre vie et que nous l'expérimentons, eh bien nous savons que nous lui appartenons. Il ne donne pas son esprit à quelqu'un qui n'est pas sauvé. L'Écriture nous dit aussi que le Seigneur lui-même perfectionne par son esprit pour le jour de Christ, c'est-à-dire pour le moment final de notre glorification, ceux qui lui appartiennent. C'est lui qui l'accomplit. Il nous donne toutes ses garanties et il produit en plus en nous cette persévérance dont nous avons besoin. Et si nous défaillons, nous savons qu'à tout moment, nous pouvons nous tourner vers lui pour avoir ce renouvellement de persévérance et de fidélité dont nous avons besoin et qu'il crée en nous par son esprit. L'apôtre Paul enseigne tout cela. Dans ces quatre ces quelques lignes ici, il ne va pas pouvoir résumer tout cela. Il fait quatre affirmations qui sont des affirmations fortes, toujours dans le même but, d'encourager Timothée à la fidélité et à la persévérance. Je relis. « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Dans cette première affirmation, il est question de quoi ? Il est question de vie ou de mort. Il est question de vivre. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'apôtre Paul le développe dans Romains au chapitre 6. Il dit que dans cette œuvre du salut, au moment où nous venons à Christ, où le Saint-Esprit œuvre en nous, il nous unit à Christ dans une espèce d'identification et qui fait que lorsque Christ est mort à la croix, par anticipation, c'est comme si nous étions crucifiés avec lui. C'est mort avec lui. Et quand Christ est ressuscité, par identification à lui, c'est nous qui ressuscitons avec lui pour une vie nouvelle. Et c'est ça la nouvelle naissance. Une vie nouvelle se développe en nous par la puissance du Saint-Esprit à partir du moment où justement nous vivons avec lui. Et c'est un présent qui se parachève dans le futur. Toute notre vie, nous vivons avec lui parce qu'il a créé en nous une vie nouvelle qui est entretenue par le Saint-Esprit dans notre cœur. On a là une affirmation qui est forte, à savoir que notre union à Christ par le Saint-Esprit à notre nouvelle naissance, et le baptême d'eau est une image de cela, une attestation de cela, à savoir que lorsque nous sommes plongés dans l'eau, il y en a eu des baptêmes il y a deux dimanches seulement, je crois, lorsque nous sommes plongés dans l'eau, nous sommes morts avec Christ, et lorsque nous sortons de l'eau, c'est une image de notre résurrection avec Christ pour une vie nouvelle. Eh bien, ici, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, de nous le dire à nous par-delà, Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ et de la grâce de son salut. Son salut est immérité, son salut est grand, son salut est définitif, son salut est certain, parce que si vous êtes mort avec lui, vous vivrez aussi avec lui. Et cette affirmation, retenez bien, elle chapeaute toutes les autres. Elle est prioritaire avant tout. Et si nous sommes dans la foi, nous devons avoir cette confiance. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Notre destinée finale, c'est la victoire, c'est la glorification auprès de lui. Deuxième affirmation. Il est question ici de, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. On fait appel ici à des notions un petit peu, peut-être un petit peu plus complexes. Il est question ici de règne futur. Il est question de gloire. L'Écriture nous enseigne que nous serons tous appelés à participer à l'autorité et à la gloire de Christ lorsque toutes choses seront restaurées. L'Écriture nous dit que tous nous y serons associés. Mais l'Écriture donne aussi un enseignement qui nous montre, au travers d'un certain nombre de mentions qui sont du type des couronnes qui nous seront réservées aux uns et aux autres, de récompenses qui sont réservées en fonction de nos œuvres en tant qu'enfants de Dieu, qui nous parle aussi de trône dans l'Écriture, de gouvernement, etc. Je n'ai pas du tout le temps de développer ça dans le cadre de cette prédication ici, qui nous mène un peu loin. L'Écriture nous montre que, en fonction peut-être de notre degré de persévérance, des épreuves auxquelles nous aurons à faire face, des œuvres que nous aurons accomplies, des œuvres d'obéissance et de fidélité que nous aurons accomplies en tant qu'enfants de Dieu, eh bien nous serons récompensés en quelque sorte par un niveau, si vous voulez, de règne peut-être distinct, qui ne sera aucunement privatif de quoi que ce soit. Nous serons tous dans la félicité éternelle. Mais peut-être que certaines choses, et je le dis avec une certaine prudence, nous serons réservés particulièrement, en lien avec cette expression, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, nous régnerons aussi avec lui d'une façon définitive, c'est certain, mais en fonction de, peut-être de récompenses diverses qui nous sont attribuées d'une façon diverse. Ici, l'apôtre Paul, pardon, nous appelle à nous souvenir de Jésus-Christ, celui qui renouvelle notre persévérance, et qui sera le juste rémunérateur. C'est un terme qui est employé dans l'Écriture pour dire qu'il donnera à chacun, un peu aussi en fonction de ses œuvres en tant qu'enfant de Dieu, non pas pour le salut, j'insiste bien, le salut c'est la première affirmation qui nous en parle, mais en fonction de notre persévérance. Et là encore, c'est un puissant encouragement pour Timothée en disant « persévère, parce qu'il y a à la clé un règne avec Christ qui vaut la peine ». La troisième affirmation, ici, c'est celle qui est peut-être la plus troublante. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Il y a quelque chose de tragique dans la conclusion de cette affirmation. Que Christ puisse nous renier au moment où nous présenterons devant Dieu pour le jugement est quelque chose de terrible. De quoi l'apôtre Paul parle-t-il ici ? On a dans l'Écriture un exemple qui est celui de Pierre, qui est le renieur par excellence. Après avoir vécu 3 ans avec Jésus-Christ, d'avoir été investi de responsabilités au sein des groupes des 12, d'avoir vu tous les miracles, tout ce qui témoignait que Christ était véritablement le Fils de Dieu sur la terre au moment où Christ est jugé, passe au tribunal, il le renie 3 fois de suite. En plus, Christ l'avait prévenu. Et en plus, Christ nous dit qu'il avait prié pour lui pour qu'il ne tombe pas trop loin dans ce reniement. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Jésus-Christ l'a-t-il renié ? Absolument pas. L'évangile de Jean nous montre qu'une nouvelle rencontre avec le Christ crucifié a eu lieu, où Christ l'a restauré dans tout son amour et la communion avec lui après la repentance de Pierre. Et qu'il a été investi à nouveau d'un ministère particulier. Il a été celui par qui l'Église a été fondée. Donc ce contre-exemple nous montre qu'il ne s'agit pas manifestement d'un reniement du type de celui de Pierre. Alors de quoi s'agit-il ? D'ailleurs, une petite remarque en passant, c'est que le terme grec qui est employé à propos du reniement de Pierre n'est pas le même que celui qui est employé ici. Pas forcément très significatif, mais c'est à remarquer tout de même. L'apôtre Paul va utiliser une deuxième fois ce mot de renier dans la même épître. Et quand dans une même épître, 2 fois le mot est employé, c'est très significatif, ça, par contre. Au chapitre 3, le verset 5, l'apôtre Paul parle d'un certain nombre d'hommes qui ont un certain nombre de caractéristiques qui manifestent totalement leur incrédulité, et il dit de ces gens qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, parce que ces hommes-là sont perdus aux yeux de Dieu. Christ les reniera devant le tribunal de son Père, ayant l'apparence de la piété. Il est question ici de personnes qui gravite autour de la sphère chrétienne, qui gravite autour de l'Église, qui peut-être s'assoit sur les bancs de l'Église, qui entendent le message de l'Évangile et qui, à aucun moment, n'acceptent ce message. Le terme « renier » qui est utilisé ici dans le grec a une palette de significations qui est large et qui inclut l'idée de refuser, de rejeter. Des gens qui ont rejeté ce sacrifice de Christ dont il est question ici, qui fait que des personnes, les élus, obtiennent le salut en Jésus-Christ. Ils l'ont rejeté, ils l'ont refusé. Ils l'ont refusé définitivement. Et Christ les reniera de la même façon. Le Seigneur, dans l'Évangile, en parlait. Il disait, certains se présenteront devant le Seigneur en disant, nous avons fait des miracles, nous avons été dans vos églises, nous avons été dans des bancs, nous avons écouté la parole, etc. Là, je transpose. Hein. Jésus leur dira, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi. Être assistant, assidu à une église, écouter inlassablement une parole qui passe comme de l'eau sur les plumes d'un canard, ne fait pas de vous un chrétien. Et le Seigneur devra être juste, parce qu'il y a quelque chose qui revient ici et dont nous devons nous souvenir aussi à propos de Jésus-Christ, c'est qu'il est un juste juge. Il ne trafiquera pas devant Dieu en disant « Celui-ci a passé des heures dans les murs de cette église. Mon père, il faut le recevoir. » Non, je ne le connais pas. Parce qu'il a renié, il a refusé, il a rejeté le salut qui était en Jésus-Christ. C'est un avertissement qui est sévère. C'est un avertissement qui fait peur peut-être à certains. C'est un avertissement qui interroge. Depuis le temps, peut-être que vous entendez l'Évangile de façon renouvelée, cet appel à vous reconnaître comme pécheur, à venir à Christ pour obtenir le pardon de vos péchés, vous réconcilier avec lui et vivre de cette vie nouvelle qu'il vous propose véritablement par le Saint-Esprit, cette transformation véritablement de vie à son service dans la fidélité et la persévérance, depuis le temps que vous l'entendez et que vous le refusez. Je vous renierai. Ça mérite d'être réfléchi. Souviens-toi de Jésus-Christ. Même s'il est un Dieu d'amour, même s'il est un Christ d'amour, de compassion, de grâce, il est aussi un juste juge. La dernière affirmation, qui n'est pas de la même nature du tout, si nous sommes infidèles, et c'est autre chose que renier, ce n'est pas le même mot, il demeure fidèle. Quelle promesse ici. Question de fidélité. Pardon, il y a eu une erreur ici dans mon... Excusez-moi, je n'ai pas réenregistré le nouveau PowerPoint que j'avais, je vais passer. Il est question ici de fidélité. Comment serions-nous peut-être infidèles ? Là, Timothée s'est peut-être reconnu. Parce qu'à un moment donné, l'apôtre Paul lui dit « N'aie pas honte du témoignage à rendre. » Il avait eu honte, peut-être. Peut-être que d'avoir été défaillant dans sa foi, dans sa persévérance, constituait aussi une infidélité vis-à-vis de Dieu. L'apôtre Paul, lui, dans la prison, était fidèle. Il était persévérant. Et Timothée, en contraste, était en train de défaillir alors qu'il était libre. Il n'a pas supporté l'épreuve. Il a connu des doutes, peut-être le péché aussi. Et si on généralise beaucoup plus, nous connaissons tous le péché. Ce sont des marques d'infidélité à notre Seigneur qui est un Dieu saint. Souvenez-vous de Jésus-Christ, il est saint et il veut que nous soyons saints. Et nous connaissons tous l'infidélité. Mais ce n'est pas l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Jean qui en parle et qui dit que nous avons un Dieu fidèle et juste pour nous pardonner toutes nos iniquités. Je lis le texte d'une façon précise. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, question de fidélité, question de justice, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Je pense que nous n'avons aucun mal à reconnaître, chacun d'entre nous, s'il y a une exception, venez me voir à la fin, que nous sommes tous des pécheurs, même enfants de Dieu, que nous avons des défaillances de sainteté, que nous avons des défaillances de fidélité, que nous avons des défaillances de persévérance dans l'épreuve, que nous avons des défaillances dans notre témoignage. qu'il y a des moments où nous aurions dû ouvrir la bouche, nous ne l'avons pas ouverte, combien de fois ? Et tout ça, c'est notre infidélité. Et que nous dit ici l'apôtre Paul, et que dit-il à Timothée ? Si nous sommes infidèles, il est fidèle. Parce qu'à la croix, il a porté tous ses péchés pour ses enfants. À la croix, tout a été payé. Si nous venons à lui dans la repentance, si nous lui confessons, si nous écoutons le Saint-Esprit qui nous dit « Mais là, tu n'as pas été fidèle. » Si nous le confessons devant le Seigneur, il nous pardonne. Il restaure la communion avec nous. Il nous restaure dans notre vocation. Il nous restaure dans notre ministère, dans notre dignité d'enfant de Dieu. En rien, il nous désavoue. Souviens-toi de Jésus-Christ. Pardon, je crois que je ne l'ai pas ici. Je suis trompé dans l'enregistrement du PowerPoint. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il est un juste juge, mais un juge plein de grâce pour ses enfants. Un juge plein de grâce. Quel encouragement pour chacun d'entre nous. Nous avons un salut qui est certain. Nous avons un Dieu, et c'est par cela qu'il termine, notre Dieu ne se renie pas lui-même. Tel qu'il est, plein d'amour, juste, plein de compassion, tout cela, il le reste. Il ne peut se renier lui-même. Il n'est pas menteur. Ses promesses, il les tient. Ses dons, il ne s'en repent pas. Il ne peut se renier lui-même. Dans ces quelques lignes, il n'y a pas d'élément à même de nous troubler, de nous plonger dans le doute, comme plusieurs fois je l'ai vu, de personnes qui étaient dans les larmes et l'angoisse parce qu'ils n'avaient pas compris cela. Ils disent « Mais j'ai renié le Seigneur et il va me renier aussi. » Non, tu as été infidèle, mais il reste fidèle si tu lui appartiens. Ici, il y a des promesses qui sont de nature à nous conforter dans le fait que nous avons un Sauveur, un Seigneur Jésus-Christ Sauveur, qui nous a acquis un salut qui est de valeur, qui est précieux, qui est inaltérable, qui nous a accordé par sa grâce et sa grâce seule, parce qu'il ne se renie pas lui-même. Et nous pouvons louer le Seigneur à cause de cela. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Souvenons-nous que dans le doute, le découragement, c'est vers lui que nous pouvons porter les regards, à cause de tout cela, de sa personne, son témoignage de persévérance, sa victoire finale, sa parole qui n'est pas liée, le fait que pour les élus, il nous accorde un salut qui est éternel avec la gloire éternelle, que si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui, notre salut est inaltérable, que si nous défaillons, eh bien, il est fidèle, il nous pardonne, et que nous régnerons également avec lui au final. Tournons les yeux vers la victoire quand nous sommes dans le doute, dans la défaillance, dans le manque de persévérance, dans l'infidélité, dans nos défaites. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Amen.